Style.
Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Jeudi 21 janvier, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, comment se projeter dans la vie en pleine crise sanitaire? Dilemme pour les lycéens à l'heure du Covid, imperdu face à Parcoursup. On va leur donner la parole dès le début de ce journal. Dans les hôpitaux, la vague monte. Est-ce qu'on pourra échapper à un troisième confinement? Difficilement, vous l'entendrez. Et puis Joe Biden, à peine investi, déjà au travail. Qu'est-ce que son entrée à la Maison-Blanche change pour la France? Réponse dans un instant.
Radio Classique.
Mais d'abord, Lucille Bréau, la détresse des lycéens face au Covid.
Le virus qui bouleverse leur projet d'orientation. Depuis hier, les terminales peuvent formuler leurs vœux sur Parcoursup pour leur première année dans le supérieur. Mais comment se projeter en pleine crise sanitaire? Témoignage de lycéens en plein doute, recueilli par Camille Schmitt.
Lumna ne s'est même pas encore inscrite sur Parcoursup. Cette lycéenne de Narbonne se sent perdue. La pandémie est venue bousculer ses choix d'orientation.
On ne peut pas vraiment réfléchir à notre orientation comme on aurait voulu. Par exemple, l'an prochain, si je veux faire un BTS en alternance, avec le Covid, on comprend que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant.
Rachel aussi a du mal à s'y mettre.
C'est pas très motivant de penser à l'avenir, en fait.
La crise sanitaire a porté un coup à son entrain et elle ne se sent pas assez accompagnée dans ses démarches.
On est obligé de se débrouiller soi-même. Parcoursup, ma mère ne connaît pas. Les parents ne sont pas forcément en cours. Les profs le sont, mais on ne peut pas les avoir tous les jours sous la main, donc c'est difficile aussi.
Les parents ont en effet dû se mettre à la page Parcoursup, mais difficile d'y voir clair sans les traditionnelles réunions parents-prof. Dans l'établissement du fils d'Edith, des initiatives ont été mises en place.
On a eu une visioconférence pour l'explication de Parcoursup. C'est très différent, on ne peut pas poser beaucoup de questions parce qu'il y a trop de monde. L'échange n'est pas le même via un ordinateur qu'en présentiel.
Autre regret pour cette parent d'élève, l'annulation des salons étudiants et des journées portes ouvertes en présentiel pour les lycéens.
On a l'habitude, nous, d'aller voir comment c'est et on a envie qu'ils puissent voir de près l'atmosphère d'une école, d'une université ou autre. Ça, c'est très frustrant. Ouais.
Les élèves de terminale ont jusqu'au 11 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme.
Emmanuel Macron, lui, est attendu aujourd'hui au chevet des étudiants de l'université Paris-Saclay. Ni restrictions supplémentaires, ni allègements. Hier, il a acté le statu quo en conseil de défense. Les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées le 1er février. Jean Castex, lui, reçoit de nouveau les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran est l'invité du 20h de TF1 ce soir. L'Assemblée nationale, elle a voté cette nuit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Car dans les hôpitaux, la vague monte et le reconfinement est bien dans toutes les têtes. 2842 lits de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. Plus de 26 700 nouveaux cas ont encore été détectés hier. Le variant anglais inquiète, il pourrait être dominant en mars, d'après l'INSEE. Et dans les hôpitaux, on sent clairement déjà la troisième vague monter, Rémi Pfister.
La troisième vague, le professeur Stéphane Berda la ressent déjà depuis une semaine dans son service de l'hôpital Nord de Marseille.
On l'a subi déjà puisqu'on a transformé des unités non-Covid en unités Covid, des épuisements des personnels soignants qui deviennent vraiment importants, avec des clusters qui se déclarent à droite à gauche. Donc oui, la situation devient extrêmement tendue.
Le président de SAMU Urgence de France, François Bourronne, remarque qu'aucun hôpital n'est épargné par la montée des cas, même ceux de l'Ouest. Peut-être la faute aux variants britanniques.
Il n'y a pas de raison que ce qui se passe en Angleterre ne nous touche pas d'une façon ou d'une autre. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les mesures qui sont mises en place vont limiter au maximum cette troisième vague, mais il va y en avoir une.
Faut-il renforcer dès à présent les mesures? Les autorités se basent notamment sur les modélisations mathématiques de l'épidémie. C'est le travail de Jean-Stéphane Dersin du CNRS. L'enjeu, c'est d'inclure les effets du nouveau variant.
Pour ça, les approximations actuelles, c'est la vitesse de propagation britannique. C'est l'hypothèse qu'on prend et une urgence à faire en France, c'est estimer comment est-ce qu'il évolue. Vous avez deux épidémies, une qui est maîtrisée et puis une autre qui peut décoller. Et c'est clair que si, dans le cadre des mesures actuelles, il s'envole, ça va être lui qui va devenir prépondérant.
Et le variant est peut-être déjà massivement présent sur notre sol. Pour le savoir, il faut séquencer encore et encore, mais cela prend du temps.
Les variants au menu d'un nouveau sommet européen virtuel aujourd'hui. Sur la table, le renforcement des contrôles aux frontières entre pays de l'Union, au Royaume-Uni, entre autres. Les chiffres sont effroyables de la bouche même du Premier ministre Boris Johnson. Omicron. 1820 morts de plus hier. Il sera aussi question de vaccins. Chez nous, plus de 690 000 personnes ont reçu la première dose, dont 100 000 hier. Mais déjà, elle manque. Tous les centres du Bas-Rhin resteront porte close lundi et mardi prochain, faute de doses.
Il est 7h05. Aux États-Unis, le nombre de victimes du Covid dépasse désormais le nombre de soldats tués lors de la Seconde Guerre mondiale.
405 400 personnes sont mortes là-bas depuis le début de la pandémie. C'est la première priorité de Joe Biden, investi hier et déjà au travail. Il a signé une première série de décrets cette nuit. L'un rend le port du masque et la distanciation obligatoires pour les fonctionnaires dans les bâtiments fédéraux. Les États-Unis de retour également au sein de l'accord de Paris sur le climat. Joe Biden à la Maison-Blanche, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les relations internationales. Une nouvelle philosophie esquissée hier au pied du Capitole.
We will repair our alliances. Nous allons réparer nos alliances et collaborer à nouveau avec le monde. Nous guiderons pas seulement par l'exemple de notre pouvoir, mais par le pouvoir de notre exemple.
Mais est-ce que cela change vraiment quelque chose pour la France et pour l'Europe? Pas vraiment pour Marie-Christine Bonzon, elle est spécialiste des États-Unis.
Les intérêts les plus importants des États-Unis sont la relation avec la Chine. Jake Sullivan, qui est maintenant l'un des plus proches conseillers du président Biden, avait dit que la France et les Européens devaient choisir entre les États-Unis et la Chine. Alors sur le Moyen-Orient, Joe Biden a déjà dit qu'il y aura une continuité. Et donc Joe Biden n'a pas l'intention de revenir sur la décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Les pays européens, et la France en particulier, considèrent que cette décision de Donald Trump contrevenait au droit international. Donc on doit s'attendre à quelques petites frictions dans ce dossier, notamment en ce qui concerne les Palestiniens.
Et son premier coup de fil pour un dirigeant étranger, ce sera pour Justin Trudeau demain, le Premier ministre canadien.
Enfin, Emmanuel Macron replonge dans les dossiers mémoriels. Il promet des actes symboliques, Lucille, pour apaiser les mémoires sur la guerre d'Algérie.
Des actes, mais pas les excuses demandées par Alger. Hier, l'historien Benjamin Stora lui a remis l'épais rapport qui porte son nom. Il préconise la mise en place d'une mission mémoire et vérité sur la colonisation de la guerre d'Algérie. Pour l'Élysée, il n'est pas question de repentance, mais de sortir du non-dit et du déni. Cela va dans le bon sens pour Nasser Kétan, le directeur de Beurre FM.
L'armée française a bombardé le village de mes parents, on a torturé des gens de ma famille, on a assassiné mon grand-père. Comment voulez-vous qu'une repentance ou des excuses gère ce genre de truc? C'est plus important d'avoir des actes. C'est vrai que la guerre, malheureusement, a fabriqué un peu des rancunes et ce sont des digues qui doivent sauter. Et donc ce travail qui va être fait à travers toutes ces commissions, ces publications, et c'est là que ce travail va être intéressant. Tout va être sur la table, mais en tout cas, on va parler. Mais c'est toutes ces mémoires qui vont se partager et qui vont vivre ensemble.
Des propos recueillis par Eric Kioch. Un mot de nos handballeurs pour finir à la peine. Hier soir, face à l'Algérie, ils ont souffert pour s'imposer finalement 29-26. Un pas de plus vers les quarts de finale des championnats du monde.
Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Sur Radio Classique, dans un instant, le rappel des titres de l'économie. On va parler l'édito éco de François Vidal. On parlera du quoi qu'il en coûte. Il faudrait qu'il s'arrête cette année, dit ce matin dans les échos. Olivier Dussopt, le ministre des Comptes Publics. Et puis notre invité, juste après, on parlera avec lui de finances responsables, durable, bienveillante, avec...